6h04, nous sommes mardi, nous sommes déjà rendus au 20 avril, avec un ciel nuageux, il y avait quelques averses ce matin, quelques gouttelettes pour être plus précis, là. Avec du temps donc nuageux. La pluie devrait cesser ce matin, on prévoit une alternance de soleil et de nuages par la suite, le maximum donc 12 degrés, c'est demain, c'est assez particulier, ça commence par des nuages et de la neige demain matin. Et là, selon la source que vous regardez, Environnement Canada nous parle d'une accumulation de 2 cm, ce qui n'est évidemment pas beaucoup. Par contre, Météo Média évalue peut-être la chute de neige à 5 jusqu'à 10 cm. Puis on comprend qu'à l'extérieur de Montréal, plus au nord, plus à l'est, les quantités seront un peu plus importantes. Et la neige devrait se poursuivre même durant la nuit et durant la journée de jeudi de façon intermittente. Et là, on a des températures demain de 2 degrés, jeudi 1 degré, puis on finit la semaine avec du soleil et 12 degrés. Alors quand même, on va être passé par à peu près toutes les étapes, si on veut, météo en cette semaine. Bon, nous sommes au lendemain du budget, quoi dire? Je retiens pas mal l'espèce de mantra qui habite le gouvernement Trudeau depuis le début de cette crise. Vaut mieux en mettre plus sur la table que pas assez. Et on se souvient de tout le débat sur la prestation canadienne, qu'il y aurait des cas de fraude, qu'il y a des gens qui ont profité du système, des gens qui ne sont pas retournés travailler. Bon, je pense que le budget où on retrouve 100 milliards d'investissements sur 3 ans, notamment avec la création d'un système national de garderie, le prolongement de certaines mesures qui vont s'atténuer au fil des mois, l'idée, c'est de soutenir les Canadiens qui ont des problèmes, qui ont perdu leur emploi, qui pourraient perdre leur emploi, des employeurs qui se retrouvent avec une baisse du chiffre d'affaires, des loyers à payer. Autrement dit, tous ceux et celles pour qui la crise actuelle est difficile sur le plan économique. Donc, vous avez une pluie de programmes qui existent et des stratégies de soutien. On va les repasser plus tard avec notamment Pierre-Yves, mais ce qu'on remarque, donc, c'est de l'argent qu'on offre à ceux qui ont les plus faibles revenus, les personnes les plus âgées. Sérieusement, là, un chèque de 500 $ durant l'été, à quelques mois d'une élection présumée, c'est gros, c'est gras, c'est comme... N'est pas nous dire, sérieusement, que c'est pas une mesure électoraliste. Pourquoi 75, pourquoi pas 65? Je comprends qu'il faut mettre une barre à un moment donné, mais bon. Alors, ça veut dire que des PME, des petites entreprises, vont pouvoir naviguer à travers cette tempête. L'idée, c'est de ne pas affecter une relance économique. Il y a des secteurs qui fonctionnent mieux. Il y a des problèmes de main-d'œuvre. Mais quand même, on a peut-être besoin de cette période de 18 mois. On ne sait pas ce qui peut arriver. L'automne prochain, est-ce qu'il y aura une autre vague? Est-ce qu'on va être encore dans des opérations comme ça de confinement qui affectent l'économie? Alors, c'est la toile de fond. Puis quand je fais le tour ce matin, vous avez des chroniqueurs, disons, un peu plus centre, un peu plus gauche, qui disent que Trudeau fait ce qui devait être fait. D'ailleurs, les partis d'opposition ne critiquent pas trop. Le NPD a déjà annoncé qu'il voterait avec le gouvernement là-dessus. Le Bloc québécois a mis des bémols, puis j'y reviendrai. Mais du côté de journaux plus à droite, je pense au National Post, bien évidemment, c'est une orgie de dépenses, c'est le déficit qui gonfle, on pelte ça dans le cours des générations. Si vous êtes un jeune de 25-30 ans aujourd'hui, vous dites, ouais, qui va ramasser la facture? Pas les boomers, certains. C'est encore nous qui allons être pris avec le fardeau. Si les taux d'intérêt augmentent, est-ce qu'on va pas se ramasser avec des factures, disons, gonflées? C'est vraiment une question de perception. Pour ce qui est du Québec, d'abord, le réseau de garderies, on l'a implanté. Puis tu sais, il y a des fois, on se tape dessus avec raison, là. Mais on est capable de reconnaître que le geste posé par Pauline Marois de mettre sur pied un réseau de garderies est un geste qui a permis aux femmes d'aller vers le marché du travail. Et c'est au Québec qu'on retrouve la portion la plus importante de femmes qui ont des enfants qui travaillent. Puis le travail, on le sait, c'est la clé de l'indépendance, puis c'est la clé de l'autonomie. Alors là, M. Trudeau nous arrive en disant, voici, j'ai un programme national. Puis là, les provinces doivent embarquer là-dedans. Là, tu dis, OK, mais le Québec, on est déjà D'ailleurs, c'est le Québec qui inspire le fédéral. Alors, comment on va négocier, puis comment on va se faire le partage? Ça, c'est l'élément 1. 2, il n'y a rien dans le budget pour la facture grossissante du service de santé au Québec, du système de santé. On le sait tous, là. Le fédéral est excellent pour établir des normes. Il veut le faire là, pour ce qui est des personnes âgées, puis il veut le faire en santé mentale. Mais combien de fois on a vu le fédéral mettre ses fameuses clauses ou ses normes, ses paramètres, puis le financement ne suit pas, ce qui est vrai pour la facture santé. Puis je vous le dis souvent, un jour, on va être confronté à ce débat parce que le coût des traitements, la médecine spécialisée, bien, il y a un prix à payer pour ça. Alors, il n'y a pas un sou dans ce budget, sauf un 3 milliards, donc, pour ce qui est des personnes qui sont en hébergement. Ça ne règle pas ce problème-là. Et je pense que ça va être un élément de confrontation. Fait que c'est un budget direct aux citoyens, c'est un budget à la veille d'une élection, puis c'est un budget, je pense, assez clair aussi, en période de crise, qui dit, là, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. On va essayer de protéger les citoyens qui sont les plus faibles, les plus démunis, les plus à risque et qui écopent beaucoup depuis le début de cette pandémie. Alors, Québec a dit que c'était une occasion ratée et vous avez évidemment tous ces commentaires-là. Et Francis Weiss, c'est intéressant ce matin, il soulève un point où il dit, contrairement à ce qu'on voit dans des budgets comme ça, où l'État se donne un coup d'hélium et gonfle un peu, on n'est pas dans les infrastructures, on n'est pas dans la construction. C'est un secteur qui va bien de toute façon, là, on le sait. Mais on est plutôt dans, par exemple, l'accès au milieu du travail pour les femmes à travers le Canada avec les garderies. On est dans des décisions vertes. Quoique, il faut toujours se méfier des annonces et de l'impact réel. Mais quand même, on voit que c'est une stratégie qui s'adresse directement aux citoyens. Parlons COVID. D'abord, on attend toujours la décision de Québec concernant le vaccin AstraZeneca pour les 40-55. Là. Il y a des provinces canadiennes comme l'Ontario qui ont déjà décidé de donner le vaccin. Santé Canada est assez, disons, prudent. Et c'est aux provinces de décider. Le docteur Arruda a dit « ça s'en vient ». On attend les recommandations. Donc, l'idée, c'est de vacciner encore là plus de gens possible. Là, on a vu en fin de semaine, il est resté bien des doses sur les tablettes. Là. L'engouement pour le AstraZeneca n'est pas très puissant. Tous les jours, j'ai des courriels de gens qui sont dans les centres de vaccination qui me disent « on se tourne les pouces un peu, là, on est prêt à vacciner ». On verra plus tard aujourd'hui les chiffres de vaccination. Mais tout ça pour vous dire donc qu'on attend l'addition sur AstraZeneca. Deuxièmement, vous avez ce matin beaucoup de spécialistes qui, c'est dans la presse plus, là, qui demandent à ce que la deuxième dose de vaccin soit administrée dans les milieux où les personnes âgées sont en communauté, les centres de soins de longue durée, les RPA, justement pour éviter qu'il y ait des éclosions. On sait que pour les personnes âgées, ça prend plus de temps à, disons, se doter d'un système immunitaire là, pour résister aux effets les plus dévastateurs de la COVID. Ils sont en communauté, ils sont vulnérables, donc la deuxième dose s'impose. Et hier, il y avait d'autres experts qui disaient, vous savez, là, quand le gouvernement vous explique qu'au mois de juin, c'est comme la libération qui s'en vient, là, juste rappeler qu'au mois de juin, on va avoir vacciné une fois les Québécois. Et la plupart seront en attente de la deuxième dose. Donc, avant de parler là, de, je dirais, retour à une normalité, ça va être mieux. Mais sérieusement, là, ça ne sera pas bien bien avant l'été, puis peut-être même avant le mois de septembre. Puis je ne dis pas ça pour être négatif ce matin. Là. J'essaie de voir un peu comment ça marche ailleurs dans le monde. Là. Puis ce sont les endroits où la deuxième dose a été donnée, où les gens ont été vaccinés, qu'il y a un pourcentage qui adhère à ça. Tu sais que ça vaccine à 70-80%. Israël, on est à 60-quelques pourcents, pas loin de 65%. Aux États-Unis, vous avez un Américain sur deux de vaccinés avec au moins une dose. Puis un pourcentage élevé là, qui ont déjà les deux doses. Alors, c'est sûr que ça crée une forme d'immunité plus importante. Ça, c'est aussi un élément, disons, à souligner ce matin. L'autre chose, ça concerne les écoles. avec les fermetures qu'on voyait, on apprenait que l'école secondaire de Mortagne de Boucherville tombe en enseignement virtuel à compter d'aujourd'hui parce qu'il y a des cas de COVID au sein du personnel et des élèves. Là. Je voyais ça hier, là, il y a quand même là, une trentaine d'élèves et presque une dizaine de membres du personnel qui ont contracté le virus. Comment c'est arrivé? Tu sais, c'est une grosse école, là. C'est quoi? C'est 2500, 3000 élèves. Donc, ça veut dire que pour deux semaines, l'enseignement va se faire à distance. Même chose pour l'école du Rocher depuis la semaine dernière. C'est un collège privé sur la rive sud de Montréal. Alors, il y en a des éclosions en milieu scolaire. Il y en a en milieu de travail. On insiste encore sur les lenteurs du déploiement des tests rapides. Là, il paraît que Québec va assouplir, disons, les mesures parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient ça pouvoir tester. Puis on le sait que ça se passe là, beaucoup. Comment ça se fait que tu ne rends pas ça plus accessible plus vite? Mais il paraît que ça va se faire. Il paraît que la bureaucratie, il paraît que le mammouth est en train de se réveiller et que les tests plus rapides vont être accordés. Et peut-être juste pour compléter là-dessus, je lisais ce matin dans Le Monde sur les variants de différentes souches. On a parlé du variant britannique, du variant d'Afrique du Sud. Et là, si vous regardez la situation en Inde actuellement, là, l'explosion du nombre de cas, là, la courbe, c'est pas juste exponentiel, là, c'est comme une ligne droite vers le haut. Et c'est un variant qui commence à inquiéter les scientifiques. Plusieurs mutations seraient extrêmement différentes. Le docteur Weiss va être avec nous ce matin. Et aux États-Unis, il y a tout un débat aussi sur les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On se rend compte là, que les gens sont assez nombreux. Je disais tantôt, la moitié de la population, une dose. Là. Mais on remarque donc qu'à peu près le 1/5 des personnes âgées, 65 ans et plus, qui n'ont pas eu de vaccin ou qui ne veulent pas avoir de vaccin. Ce qui est quand même un noyau qui est important. On va aller... Non, on a fait, Marc, c'est vrai. On a regardé ce qui se passait. C'est assez tranquille. On va regarder les autres nouvelles ce matin. Il y a cette vidéo, on va en parler tantôt avec Elisabeth, là, une arrestation, disons, où ça brasse dans le métro. La société de transport qui a ouvert une enquête interne, ça s'est passé samedi. Comme c'est souvent le cas, on voit la moitié des images. Semble-t-il que c'est quelqu'un qui refusait de payer. On a tenté de l'intercepter. C'est une personne qui aurait mordu les agents du métro. Le SPVM est intervenu. Et ce qu'on voit, par contre, ça demeure assez troublant, là. C'est-à-dire qu'un des agents qui frappe à plusieurs reprises, l'autre est au sol, l'homme se débat. C'est un noir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une connotation raciale? C'est ce que plusieurs prétendent. La STM dit qu'on fait une enquête interne. L'opposition à la Ville de Montréal dit qu'on a besoin d'une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que c'est extrêmement violent, là, puis ils sont plusieurs à tenter de le maîtriser. Mais c'est quelqu'un, donc, qui refusait d'obtempérer et quand même mordu, selon certaines versions. Je vais vous parler de violence conjugale ce matin, puis je vous lance ça parce que hier, j'ai été très troublé par un courriel que j'ai reçu. On a eu donc 10 cas de féminicide au Québec depuis le début de l'année. Et on le sait, là, Québec, il y a beaucoup de pression. Les partis d'opposition disent qu'il faut mettre en place un système tout de suite d'urgence pour permettre aux femmes qui veulent s'en sortir, qui ont besoin d'une main tendue pour être mieux protégées. Elles ne savent pas où aller. Puis les places sont difficiles parfois à trouver. Et hier, on parlait avec Mario Trépanier qui disait que c'est important que les proches soient conscients et puissent être proactifs dans le cas où la violence frappe quelqu'un de leur famille. Je vous raconte une histoire ce matin, puis peut-être que vous allez m'éclairer avec vos expériences. Mais qu'est-ce que tu fais quand ta sœur est dans une relation toxique, qu'elle est battue, là, harcelée psychologiquement, mais frappée physiquement, puis qu'elle ne veut pas sortir de là. Et que non seulement, quand il y a ces épisodes, la police intervient, mais qu'elle y retourne. Et les membres de la famille sont découragés. Sa sœur m'a écrit en disant qu'elle est dans une relation depuis 6 ans. Violence verbale pour commencer, violence physique sur des objets, isolement de ma sœur, perte de poids incroyable en moins d'un an pour elle, plusieurs signalements à la police par les voisins. Finalement, la police intervient, constate un cas de voie de fait. Il y a une ordonnance de restriction qui entoure le gars, mais ma sœur continue de le voir. On tente de porter des accusations parce que ma sœur ne veut pas témoigner. Puis il paraît que c'est vrai que c'est difficile quand tu n'as pas le témoignage. Ma sœur, en février, se retrouve à l'hôpital à 23 heures. La police est inter... Vous voyez le cycle de violence. Et malgré ça, elle veut demeurer avec. Elle termine en me disant, j'ai assez peur que le prochain cas de féminicide au Québec, ce soit ma sœur. On ne parle pas de cette vision-là. Oui, il y a des femmes qui sont coincées puis qui essaient de s'en sortir, qui ne savent pas trop comment, puis qui ont peur en même temps. Mais il y en a qui retournent. Et comment on fait pour les aider quand c'est notre sœur, quand c'est quelqu'un, une amie, qui vit ce cycle de violence? Donc, on va parler à Julie, c'est pas son vrai nom, là, un peu plus tard dans l'émission ce matin. Encore une fois, il y a une histoire de fuite de données personnelles chez Desjardins. Une affaire impliquant un membre de l'exécutif du syndicat des pompiers de Montréal. Vous retrouvez ça dans le journal de Montréal, c'est le capitaine François Rosa qui s'est retiré de ses fonctions en février parce que des syndiqués se sont plaints qu'il avait eu accès à leurs informations bancaires personnelles. Grâce à sa conjointe, il aurait eu donc accès à des informations. Sa conjointe étant gestionnaire à la caisse Desjardins du réseau municipal, et qui s'occupe entre autres des comptes des pompiers et des cols bleus de la ville. On n'a pas élaboré trop tôt chez Desjardins en disant que c'est une situation qu'on regrette, mais donc quelqu'un qui aurait mis le nez dans des dossiers qui demeurent confidentiels. Je rappelle que c'est aujourd'hui qu'on a un jugement sur la loi sur la laïcité. J'allais dire le premier jugement, parce qu'il y en aura d'autres, là. C'est la Cour supérieure, et ça va aller, c'est sûr. C'est le genre de débat comme celui sur la loi 101. Qui va aller quand même pas mal plus vers les hauts tribunaux. Ça va aller jusqu'en Cour suprême. Et puis, on attend le verdict dans le procès de Derek Chauvin aux États-Unis. La garde nationale a été mobilisée dans l'État du Minnesota. Et c'est tellement tendu que je pense que c'est à partir de demain, par mesure de précaution, on ferme les écoles secondaires, puis on dit, allez-vous-en chez vous, c'est le téléenseignement, pas à cause du virus. On a peur que ça dérape si, par exemple, il y a un acquittement. Alors, vous voyez un peu le climat de tension. On va y revenir un petit peu plus tard, tantôt. 6h22 minutes. Et j'ai oublié de mentionner que le procès de Derek Chauvin, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est ce policier qui est accusé d'avoir tué George Floyd, cette fameuse vidéo qui dure 9 minutes 29 secondes où il met une pression. Et l'homme est au sol, couché sur le pavé, puis dit que la misère, qui est même plus capable de respirer, puis il en est décédé. Alors, est-ce qu'il est coupable de meurtre ou pas? C'est au jury de décider. On retourne vers la 40, monsieur. Oui.